La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair.
Je suis à nouveau pour la troisième fois avec Sylvestre Maurice, qui est chercheur à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie à Toulouse et qui est spécialiste, entre autres, de l'exploration de la planète Mars. La semaine dernière, il nous a expliqué comment les observations in situ de la planète Mars avec le rover Curiosité ont montré que Mars a été habitable au début du système solaire. Il nous a expliqué aussi qu'avec la nouvelle expérience Persévérance, ils étudiaient la fin de la période où la planète Mars était habitable. Donc on va lui demander de revenir sur ce sujet qui est absolument passionnant et qui a aussi un intérêt pour le vivant en général et pour comprendre aussi la vie sur la Terre. Donc tu peux nous reprendre, Sylvestre, et nous expliquer cette notion d'abord d'habitabilité et ensuite de fin de période habitable sur la planète Mars.
Oui, alors merci Sylvie, on est à Mars finalement, épisode 3, et on avait décrit comment les rovers ont montré que la planète était habitable. Puis ensuite, comment ils sont attaqués? Une question plus compliquée, c'est est-ce que finalement cette habitabilité a conduit à la vie?
C'est-à-dire, excuse-moi d'interrompre, mais pour que ce soit plus clair, habitable, ça veut dire que les conditions sont réunies pour l'émergence éventuelle de la vie, mais ça ne veut pas dire qu'il y a eu de la vie dessus.
Oui, et le lien est entre les deux est compliqué. Est-ce que finalement tout le monde habitable devient habité un jour? Ou est-ce qu'il faut quelque chose en plus? On a quand même le sentiment, nous, que ce qui va passer de l'habitable à l'habité, c'est le temps. Parce qu'à l'exemple de la Terre, on voit que ça a pris des millions, des centaines de millions d'années, et en plus des milliards d'années pour se développer. Et donc, quand on comprend ça, on intègre ça, on se dit que nos rovers, ben, ils ont peut-être une chance de trouver quelque chose, mais ça va être difficile parce que c'est microscopique. Par contre, là où ils sont très doués, c'est dans leur capacité à rouler. Alors, on va rouler des dizaines de kilomètres, c'est pas mal, hein, c'est beau, sur une planète, à collecter des échantillons, ça, ils savent faire. Et quand on va collecter un échantillon, bon, on va le mettre dans un petit tube, et puis on va regarder à côté, on va dire, tiens, l'échantillon s'est pris dans une coulée où il y avait de l'eau, ou bien il y avait une lave, ou bien ici, il y avait tel environnement, on va caractériser l'échantillon, on le met dans un tube, et après, nous, on collecte les tubes, on se retourne vers les agences spatiales, on leur dit, bon, vous pouvez aller les chercher. Ça s'appelle le programme de retour d'échantillons. Alors, c'est un peu pour nous ce qu'on appelle l'apogée de l'exploration martienne, c'est la capacité à ramener un jour sur Terre des échantillons.
C'est-à-dire qu'avec Persévérance, il y a des échantillons qui sont enfermés, comment dire, protégés, qui sont laissés quelque part pour qu'une autre mission vienne les chercher.
Exactement. Alors ça, c'est une constante chez nous. Ça fait 30 ans qu'on nous dit « Vous voulez quoi, les planétologues ?» On a dit « On veut des morceaux de Mars dans notre laboratoire. » On va voir pourquoi. Mais comment on le fait? Eh bien, on collecte. On en a fait un peu plus d'une trentaine. On en a déposé 10 par terre. Ça, on peut toujours aller les chercher. Et puis, on en a gardé un peu plus de 20 avec nous. On pense que d'ici 5 ans, peut-être un peu plus, peut-être 7 ans, une autre mission va arriver, va se poser à côté de nous. Déjà, ça, c'est un sacré défi. Et cette mission sera bien particulière parce que pour la première fois dans l'histoire de l'exploration de Mars, elle inclura une fusée. Une fusée de retour. Parce qu'il faut imaginer que toutes les choses qu'on fait, c'est toujours des allées simples. On a déjà fait des retours, j'y reviendrai dans d'autres cas. Mais là, il y a une petite fusée. Donc, le rover, on pense qu'il sera toujours vivant, et va les donner un à un, ce qui, on aura à peu près 30 échantillons dans cette fusée. On se recule, on va faire attention, la fusée décolle, c'est plutôt un missile qu'une fusée, hein, et qui va mettre nos échantillons en orbite autour de Mars. Et là, il y a un autre véhicule qui arrive, qui est construit en ce moment à Toulouse, très gros véhicule avec des panneaux solaires, vraiment un véhicule compliqué qui va attraper la petite boule, comme un ballon de basket qui contient nos échantillons, les prendre et les rapporter sur Terre. Alors, c'est très difficile. Redécoller d'une planète, on n'a jamais fait à part de la Lune. Et donc, c'est des défis technologiques qui se traduisent en défis finalement scientifiques, ça c'est vrai, mais aussi d'argent. Il faut trouver de l'argent, on compte en milliards. C'est pas très facile dans les temps qui courent, d'autant que le président américain vient de dire « Bon, finalement, on va peut-être pas le faire, ce programme de retour d'échantillons. » Donc, vous voyez, la politique nous rattrape. On va laisser passer ce président, puis on attendra le suivant, j'espère. Mais c'est une façon de dire, nous, on est sur des programmes qui dureront peut-être pas encore 5 ans, 8 ans, peut-être qu'ils vont encore durer un peu plus de 10 ans, mais on veut nos échantillons. Pourquoi? Parce que Sur Terre, on n'a pas des instruments qui font 10-15 kilos comme ceux qu'on a sur Mars. On a des instruments qui font la taille d'une pièce. Des laboratoires, des microscopes électroniques, des sondes ioniques, des choses très très pointues qu'on ne pourrait pas envoyer là-bas. Et donnez-nous, ou donnez un géochimiste, 10 mg d'un caillou, il vous fera l'histoire de la genèse du caillou. C'est une chose qu'on a déjà expérimenté très bien, vous le savez, c'est avec les échantillons lunaires. On a rapporté 380 kilos, ce sont les astronautes qui les ont rapportés, de roches de lune avec lesquelles on a fait une chance absolument extraordinaire. Parce que vous avez cette capacité de prendre chacun des grains. Alors on estime généralement que l'unité de compte c'est 10 mg. C'est pas beaucoup 10 mg. Donc 10 mg, c'est-à-dire dans un gramme vous allez faire une centaine d'échantillons. Et notre projet c'est de rapporter 300 grammes d'échantillons de Mars. Nos 30 échantillons auront chacun 10 grammes, ça fait 300 grammes. Et donc ça fait potentiellement des dizaines de milliers d'études différentes. Et là, je pense qu'avec ces échantillons, on pourra dire si il y a eu dans le passé de la vie sur Mars.
Mais alors là, donc, il s'agit de faire des études chimiques, physico-chimiques, des échantillons, de retrouver l'historique, géologie, je ne sais pas comment on dit pour Mars.
Ouais.
Et on dit aussi géologie pour Mars.
Tu es un géologue.
Mais comment est-ce que pratiquement, en étudiant ces échantillons, vous pouvez avoir la certitude qu'il y a eu de la vie. Donc la vie laisse des traces dans ces échantillons.
Exactement.
Qui sont tout à fait particulières par rapport à l'évolution chimique normale.
Exactement. On a ce qu'on appelle des marqueurs de la vie, donc qui est autour de la chimie organique, hein, ce qu'on appelle des signatures, des biosignatures, des signatures biologiques, qui survivent. Ça peut être des rapports isotopiques. Là, ça peut être, donc, c'est-à-dire les isotopes de certains éléments sont biaisés par la présence de la vie. Ça peut être aussi des phases minérales. Je donne un exemple tout bête, et c'est une analogie qui est un peu simpliste. Vous prenez un œuf, l'œuf, vous voyez bien qu'à l'intérieur, ça peut faire du vivant, ça fait même des petits poulets de temps en temps. Mais la coquille d'œuf, c'est un minéral. C'est un minéral fabriqué par la vie. Mais c'est une phase tout à fait minérale, hein. C'est un biominéral sans problème. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas des phases minérales qui sont créés par la vie. Donc, c'est très difficile ce qu'on va chercher.
Ça veut dire, pardon, qu'une coquille d'œuf ne pourrait pas être créée de façon non vivante. Il faut que ce soit la vie. C'est difficile de savoir ce qu'il y a besoin de la vie et ce qu'il n'y a pas besoin de la vie pour être créé.
Exactement, c'est la bonne question. Et d'ailleurs, à tel point qu'un jour, on avait dans une roche, une météorite, trouvé une petite trace de vie où on pensait qu'on avait découvert la vie ailleurs. Enfin, on ne sait pas. Mais sur une météorite, et puis on s'est rendu compte que c'était de la contamination. Effectivement, ça va être ça l'épreuve de la science, et je pense que ça va être ça notre devoir, à chaque fois qu'on voit quelque chose, de dire « c'est pas la vie », et quand les données s'accumuleront, on finira par se donner raison. Donc, on va analyser ces échantillons dans des laboratoires qui sont très compliqués, qui ont été entraînés avec des échantillons de la Lune. Vous savez qu'on a nos échantillons de la Lune. Alors, les échantillons de la Lune, c'est assez amusant, parce qu'ils viennent des missions Apollo, ils viennent des missions soviétiques, les lunes à 16, 20, 24 qui étaient des retours automatiques de la Lune. On les a un peu oubliés parce que ça a été occulté par les missions Apollo. Mais les soviétiques avaient posé des véhicules qui redécollaient, rapportaient des échantillons. Ça vient aussi des deux missions récemment des Chinois qui ont fait la mission Chang'e 5 sur la face visible et Chang'e 6 sur la face cachée. Ils ont ramené à peu près à chaque fois 2 kilos. Donc on a comme ça des échantillons de Lune. On en a plusieurs qui sont dans des grands laboratoires bien fermés, on les appelle les trésors de l'humanité. J'aime beaucoup ce mot, parce qu'en général, la nation qui les a, qui a été les chercher, les analyse un peu au début, mais après, elle en donne dans tous les laboratoires du monde, on se les échange. Et ici, dans notre laboratoire à l'IRAP, ici, sous nos pieds, on a des échantillons de la Lune. On a des échantillons d'astéroïdes. On a fait des missions de retour d'échantillons d'astéroïdes. Et c'est en particulier les Japonais qui font ça très bien, les missions Hayabusa 1 et Hayabusa 2. On a Bennu, c'est-à-dire Bennu, c'est un astéroïde qui a été visité par Osiris, les Américains. Donc, on a comme ça une collection d'échantillons extraterrestres qu'on est allé chercher.
C'est très important que les auditeurs se rendent bien compte de collaboration internationale dans ce domaine, parce qu'il y a d'autres idées qui courent toujours entre les pays, les frontières. Et là, il y a quand même une collaboration importante.
Alors, notre discipline est basée sur cette collaboration. Je crois que Sylvie, tu as raison. Elle est aussi basée sur la compétition. On ne néglige pas, parce que c'est un peu le moteur d'un chercheur. il veut faire quelque chose que personne n'a jamais fait, il préfère être le premier à le faire. Donc la compétition est importante, la collaboration est importante et l'équilibre des deux, c'est ce qui nous fait tenir. Et donc on collabore entre les grandes puissances spatiales, on parle d'espace, que sont les États-Unis, historiquement l'Union soviétique qui deviendra la Russie, l'Europe, et puis des nations plus jeunes comme l'Inde, le Japon et la Chine. Donc il y a 6 grandes nations, puis il y a plein de pays qui vont s'y associer. La collaboration fondamentale est tellement, on est tellement intriqués les uns avec les autres, que quand il y en a un qui tousse, les autres s'enrhument. Et c'est ce qu'on voit en ce moment, puisque on voit les Américains qui remettent en question beaucoup de choses, et les collaborations qui sont en danger. Mais tu l'as bien dit, que ce soit dans l'espace et quand ça sera au sol, on va s'échanger les échantillons.
De toute façon, il faut qu'il y ait plusieurs études différentes, indépendantes et qui
contradictoires s'il le faut. Voilà. À grande, évidemment, découverte. Oui. Il va falloir des grandes preuves. Et je pense que, et peut-être pour terminer cette histoire de vie sur Mars, on avait déjà dit dans un de nos épisodes que découvrir l'habitabilité, ça avait changé mon regard de l'univers en disant qu'il doit y avoir beaucoup de planètes habitables partout dans l'univers, eh bien on pourrait peut-être avoir la même chose pour la vie. C'est-à-dire que si on découvre que dans le passé, il y a eu de la vie sur Mars, alors je regarderai cet univers avec ses milliards d'étoiles et dans des milliards de galaxies, en me disant, si jamais au même endroit il y a eu la vie, dans le passé, il doit y avoir la vie partout ailleurs dans l'univers. Donc ça va nous aider à penser différemment l'univers. Et puis, peut-être dans une thématique qui est celle de mieux comprendre comment la vie apparaît sur une planète, parce que malheureusement, cette histoire, la Terre l'a oubliée.
C'est une bonne conclusion pour cette émission. Je crois qu'on ne va pas se quitter pour autant, parce que j'ai envie que tu nous parles de quelque chose un petit peu différent, qui est le son dans l'atmosphère de la planète Mars. Donc, est-ce que tu veux bien revenir encore une fois pour nous parler du son? Parce que je crois que vous avez fait des découvertes passionnante sur la propagation du son dans la planète Mars.
Je reviendrai bien volontiers.